de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter les nouvelles d'aujourd'hui. Il y a quelques événements importants à informer, entre autres. Les États-Unis demandent au Pakistan de refuser de reconnaître le régime taliban en Afghanistan. Le Japon met en garde ses citoyens contre les menaces terroristes dans 6 pays d'Asie du Sud-Est. L'OMS surveille strictement le variant B1.4.6.6.2 du coronavirus en provenance d'Indonésie. Des milliers d'Afghans protestent contre l'expulsion ordonnée par les talibans. Les cas de COVID baissent, la Nouvelle-Zélande augmente les vaccinations. L'Indonésie et la FAO renforcent leur coopération pour un système alimentaire durable. Et le ministère de l'Industrie et le ministère du Secrétariat d'État ont organisé le partage des connaissances des PMI avec les pays du plan de Colombo. Bon, cher auditeur, voici le nouvel incomplet. Les États-Unis demandent au Pakistan de refuser de reconnaître le régime taliban en Afghanistan. Les États-Unis appellent le Pakistan à rejeter la légitimité des talibans en tant que gouvernement légitime de l'Afghanistan, à moins que le groupe ne réponde aux exigences internationales. L'appel a été lancé par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken lors d'une audition conjointe avec la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis lundi cité par la AFP. Blinken a déclaré que le Pakistan devait agir en accord avec la majorité de la communauté internationale pour garantir l'objectif, selon lequel les talibans ont tenu leur promesse lorsqu'ils ont repris le pouvoir en Afghanistan le 15 août. L'une des promesses que les talibans doivent tenir, a déclaré Blinken, est d'assurer un passage sûr pour ceux qui souhaitent quitter l'Afghanistan, en respectant les droits des femmes, des filles et des groupes minoritaires. Les États-Unis ont également exhorté les talibans à respecter leur promesse de ne pas faire de l'Afghanistan un paradis pour les groupes terroristes. Le Japon met en garde ses citoyens contre les menaces terroristes dans 6 pays d'Asie du Sud-Est. Le gouvernement japonais a averti ses citoyens d'être conscients de la menace d'attentats terroristes en Indonésie, aux Philippines, à Singapour, en Malaisie, en Thaïlande et en Birmanie. Le ministère japonais des Affaires étrangères a déclaré que ses citoyens avaient été avertis de rester à l'écart des lieux de culte et des foules. D'après les informations reçues par Tokyo, il existe un risque accru de menaces d'actes terroristes tels que des attentats suicides. Rapporté par AP lundi, l'avertissement lancé par le gouvernement japonais a rendu les 6 pays d'Asie du Sud-Est confus. Parce qu'ils n'ont trouvé aucune menace suspecte dans leur région, ni reçu d'informations détaillées de Tokyo, Tani Sangra, porte-parole du ministère thaïlandais des Affaires étrangères, a déclaré que le Japon n'avait pas confirmé où se trouvaient leurs sources. Pendant ce temps, le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, Teuku Faizasa, a nié que des avertissements aient été envoyés aux citoyens japonais. Le chef de la police malaisienne, Akril Sani Abdullah Sani, a également déclaré qu'il n'avait reçu aucune information sur des menaces à la sécurité. Dans l'avertissement, Tokyo n'a pas fourni de détails sur le moment de la menace. Ils ont également refusé de dire s'ils avaient partagé leurs informations avec d'autres pays. L'OMS surveille strictement le variant B1.4.6.6.2 du coronavirus en provenance d'Indonésie. La variante du coronavirus B1.4.6.6.2 d'Indonésie est l'une des mutations parmi les 12 variantes du SARS-CoV-2 qui sont incluses dans la liste prioritaire de l'OMS pour une surveillance plus poussée. Selon les données de l'OMS, 85% de la variante B1.4.6.6.2 ont jusqu'à présent été trouvés en Indonésie. 6% trouvés en Malaisie, 4% trouvés à Singapour et 1% chacun en Australie et au Japon. L'Institut indonésien des sciences LIPI a déclaré que la variante locale B1.4.6.6.2 s'était même répandue massivement en Indonésie avant que la variante Delta n'attaque. Cependant, actuellement, la variante a tendance à être minoritaire et la proportion est inférieure à 5% à la mi-juin-juillet, après que la variante Delta a dominé les cas de COVID en Indonésie à 92%. L'IPI a déclaré que la variante B1.4.6.6.2 avait été découverte pour la première fois à Bekasi le 12 novembre 2020. L'OMS a mis la variante B1.4.6.6.2 sous surveillance depuis le 28 avril. Cette variante, appelée l'IPI, présente des modifications du matériel génétique qui affecteraient les caractéristiques du virus ou poserait un risque à l'avenir. Des milliers d'Afghans protestent contre l'expulsion ordonnée par les talibans. Des milliers d'Afghans dans la ville de Kandahar ont protesté mardi contre les talibans lors qu'on leur demandait de quitter les colonies militaires. Les manifestants se sont rassemblés devant la maison du gouverneur à Kandahar pour protester contre l'expulsion programmée d'environ 3000 familles. Selon l'ancien fonctionnaire du gouvernement témoin les événements. Des images diffusées par les médias locaux ont montré une foule bloquant une route de la ville. Le quartier concerné est principalement occupé par des familles de généraux de l'armée à la retraite et d'autres membres des forces de sécurité afghanes. Comme rapporté par Reuters, ces familles, dont certaines vivaient dans le quartier depuis près de 30 ans, ont reçu 3 jours pour quitter les lieux. Un porte-parole des talibans n'a pas encore commenté ces expulsions. Les dirigeants talibans ont promis d'enquêter sur tous les cas d'abus de pouvoir, mais ils ont ordonné aux manifestants de demander d'avoir l'autorisation avant d'organiser une manifestation. Les cas de COVID baissent, la Nouvelle-Zélande augmente les vaccinations. La première ministre Jacinda Ardern a appelé mardi les Néo-Zélandais à se faire vacciner dès que possible, car c'est le seul moyen de lutter contre la propagation du virus et de lever les restrictions dans la plus grande ville, Auckland. La Nouvelle-Zélande a enregistré 15 nouveaux cas d'infection mardi, en baisse de 33 cas la veille. Mais environ 1,7 million de personnes à Auckland étaient dans le confinement jusqu'à la semaine prochaine. Lorsque le gouvernement s'efforce de contenir le cluster de variantes Delta hautement contagieux. Ardern a déclaré lors d'une conférence de presse que les vaccins sont les meilleurs outils dans la boîte à outils, ainsi que le biais pour une plus grande liberté. Le confinement d'Auckland et la fermeture des écoles, des bureaux et des espaces publics. Et les gens ne sont autorisés à quitter leur domicile que pour faire de l'exercice ou acheter des produits de première nécessité. Le confinement et la fermeture des frontières internationales depuis mars 2020 ont pour effet de supprimer le taux d'infection à la COVID-19 dans le pays. L'Indonésie et la FAO renforcent leur coopération pour un système alimentaire durable. Le gouvernement de l'Indonésie et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ont exprimé leur engagement à coopérer plus étroitement pour un système alimentaire durable en Indonésie. Cet engagement a été réaffirmé lors d'une réunion virtuelle du nouveau représentant en chef de la FAO en Indonésie, Rajendra Arial, lorsqu'il a remis une lettre de créance à la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Tono Marsudi, à Jakarta lundi 13 septembre. C'est selon une déclaration écrite de la FAO Indonésie reçue à Jakarta mardi. Lors de la réunion, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Tono Marsudi, a souligné la résilience de l'Indonésie dans le secteur agricole. Comme l'indiquait la croissance du produit intérieur brut PIB qui a augmenté de 2,19% dans un contexte de ralentissement économique dû à la pandémie de COVID-19. La ministre Retno espère que la FAO continuera à soutenir le développement agricole en Indonésie en se concentrant sur des domaines stratégiques dont l'un est le développement de l'agriculture moderne et la promotion des experts agricoles. Pendant ce temps, Rajendra Arial a reconnu les réalisations de l'Indonésie et a réaffirmé l'engagement de la FAO à soutenir davantage les efforts visant à transformer le système alimentaire indonésien pour qu'il devienne plus durable. Le ministère de l'Industrie et le ministère du Secrétariat d'État ont organisé le partage des connaissances de PMI avec les pays du plan de Colombo. Le ministère de l'Industrie et le ministère du Secrétariat d'État ont à nouveau organisé un programme de renforcement des capacités et d'échange d'expériences concernant la formation des petites et moyennes industries, destiné aux participants des pays membres de l'Organisation internationale Colombo Plan. Cette activité est la mise en œuvre de la coopération technique sud-sud et triangulaire qu'est l'engagement de l'Indonésie depuis 1950. Le plan de Colombo est une organisation régionale qui joue un rôle dans le renforcement des aspects économiques et sociaux de ses pays membres dans la région de l'Asie et du Pacifique. Les participants au programme de renforcement des capacités vont des bureaucrates de l'appareil gouvernemental aux acteurs des petites et moyennes industries. La directrice générale par intérim des petites, moyennes et diverses industries, IKMA, du ministère indonésien de l'Industrie, Reni Yanita Jakarta, a déclaré mardi que cette année est la 6e année que l'Indonésie accueille l'événement depuis 2016. On espère que cette activité pour encourager une bonne coopération entre les agences gouvernementales et les petites et moyennes industries PMI des pays membres de Plan de Colombo, afin qu'ils puissent plus tard placer PMI en tant que moteur de la croissance économique et des opportunités de nouvel emploi. Bon, chers auditeurs, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui.
Bonsoir, voici le commentaire et encore le titre « Pour le lindungi ne soyez pas le seul accès à l'espace public ». Le gouvernement sensibilise intensivement le public à l'utilisation de l'application « Pour le lindungi » s'il souhaite utiliser des installations publiques telles que les transports en commun, les aéroports ou les centres commerciaux. L'utilisation de cette application fait désormais partie du protocole sanitaire. On espère que les gens de toute l'Indonésie pourront profiter de l'application. Peduli Lindungi est une application développée pour aider les agences gouvernementales concernées à faire le traçage pour arrêter la propagation de COVID-19. Cette application s'appuie sur la participation de la communauté pour partager les données de localisation les uns avec les autres lors d'un voyage afin de pouvoir retracer l'historique des contacts avec les personnes atteintes de COVID-19. Les utilisateurs de cette application recevront également une notification s'il se trouve dans une zone foule ou dans une zone rouge, à savoir une zone ou un sous-district où il y a déjà enregistré des personnes infectées positives au COVID-19 ou il y a des patients sous surveillance. En mois seulement après son lancement, l'application Peduli Lindungi a réussi à détecter 3839 personnes confirmées positives COVID-19. Lorsqu'elle exerçait des activités dans plusieurs établissements publics, c'est ce qu'a déclaré le ministre de la Santé, Budi Gunadi Sadikin, lors d'une audition virtuelle de la Commission 9 du Parlement indonésien, lundi le 13 septembre. Il a expliqué que l'application Peduli Lindungi a été créée en connectant le système de mégadonnées du ministère de la Santé, nommé New All Record, NAR. Ce système contient des enregistrements des données des personnes qui ont subi une PCR rapide ou un test d'antigène dans les établissements de santé en collaboration avec le ministère indonésien de la Santé. Les données comprennent également les vaccins qu'une personne a reçus. Sachant comment elles fonctionnent, l'application Peduli Lindungi a en effet raison de faire partie du protocole sanitaire qui peut protéger une personne de la contagion de COVID-19. Cependant, l'application ne peut être téléchargée que par ceux qui ont un smartphone. Alors qu'il y a encore beaucoup d'Indonésiens qui n'ont pas de smartphone ou que certaines personnes ne sont pas disposées à télécharger cette application pour des raisons de sécurité des données personnelles. Pour eux, le gouvernement devrait avoir une autre voie. Il est donc vrai ce que la présidente de DPR RI, Puan Maharani, a dit, qu'il ne devrait y avoir aucune perte de droits des gens simplement parce qu'ils n'ont pas de téléphone intelligent. Elle a également souligné que la discrimination contre le public en raison de la possession d'un smartphone ou de téléchargement de l'application Peduli-Lindungi ne devrait pas se produire. Le gouvernement doit penser à d'autres mécanismes afin qu'ils puissent accéder aux espaces publics même s'ils n'ont pas l'application Peduli-Lindungi. Espérons que le gouvernement puisse trouver une solution bientôt afin que toutes les personnes soient protégées et que COVID-19 ne soit plus une pandémie. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Chers auditeurs, bonsoir, voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 15 septembre 1974, le crash du vol 706 d'Air Vietnam. Le vol 706 d'Air Vietnam s'est écrasé le 15 septembre 1974 près de la base aérienne de Phan Rang, Vietnam du Sud. L'avion a été détourné par le Duc Tan tenant deux grenades.C'est un soldat de l'armée sud-vietnamienne qui a été rétrogradé de capitaine à lieutenant pour avoir été impliqué dans un vol de voiture. Il a demandé à être transporté par avion à Hanoï, au nord du Vietnam. Pour des raisons inconnues, le pilote s'est approché de l'aérodrome à la base aérienne de Phan Rang, mais a interrompu l'atterrissage. Peu de temps après, l'avion s'est écrasé d'une hauteur d'un 1000 pieds ou 300 mètres.Tuant les 75 personnes à bord et l'équipage. L'autre information sur la Journée internationale de la démocratie a été célébrée pour la première fois le 15 septembre 2008.En 2007, l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de célébrer le 15 septembre comme journée internationale de la démocratie pour promouvoir et faire respecter les principes démocratiques. La date a été choisie en référence à la Déclaration universelle sur la démocratie publiée par l'Union interparlementaire, OIP, le 15 septembre 1997. La Déclaration affirme les principes de la démocratie.Les éléments et les pratiques de gouvernance démocratique et la portée de la démocratie internationale. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 15 septembre 2017, le bombardement du train Parson Green. Le matin du 15 septembre 2017, une explosion s'est produite sur le train de la ligne du district à la station de métro Parson Green à Londres, en Angleterre. 30 personnes ont été hospitalisées ou dans des centres de soins d'urgence. La plupart des victimes ont été brûlées par l'explosion d'une bombe à eau avec une minuterie contenant l'explosif chimique TATP ou triacétone triperoxyde. Le lendemain, la police a arrêté le principal suspect, un réfugié irakien de 18 ans, Ahmed Hassan, dans la zone de départ du port de Douvres. La police a ensuite perquisitionné plusieurs adresses, dont le foyer d'accueil d'un couple de personnes âgées à Sunbury-on-Thames, où vit Hassan. Chers auditeurs, c'est à l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Quiz international de Voice of Indonesia 2021. Voice of Indonesia organise à nouveau un quiz. C'est Quiz international de Voice of Indonesia 2021. Gagnez des prix attractifs et des prix de consolation de Voice of Indonesia. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web www.voinews.id. Bonne chance!
Indahnya awal kita bertatap mata, ku menyapamu di seberang sana. Gundah gelisah seakan terlupa, tawa candamu mengalihkan semua. Getaran ini terasa nyata. Apakah kau juga merasa kau dan aku bersama mencari arti dunia. Kau yang terindah yang membuatku bahagia. Kau dan aku bersama mencari arti dunia. Kau yang terindah. Aku yang terkadang kau tangisi, jangan kau pendam di dalam hati. Maaf semua takkan ku ulang lagi. Indah rasanya senyummu kembali. Getaran ini terasa nyata. Oh, apakah kau juga merasa dan aku bersama mencari arti dunia. Kau yang terindah yang membuatku bahagia. Kau dan aku bersama mencari arti dunia. Kau yang terindah yang membuatku bahagia. indahnya awal kita bertatap mata. Percayalah diriku akan setia.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Ces auditeurs, bonsoir. Voici Mon Indonésie et pour le titre, la Banque mondiale approuve un prêt de 380 millions de dollars américains pour la centrale hydroélectrique de Cisokan. Le conseil d'administration de la Banque mondiale, le 11 septembre, a approuvé un prêt d'une valeur de 380 millions de dollars américains pour le développement de la première centrale hydroélectrique à stockage pompé en Indonésie. La centrale hydroélectrique est située dans l'amont de la rivière Cisokan entre Jakarta et Bandung avec une capacité d'un 1040 MW. Satu Kahkonen, directeur de la Banque mondiale pour l'Indonésie et le Timor-Leste, a déclaré samedi dans un communiqué officiel que ce projet représente un tournant sur la voie vers la décarbonisation en Indonésie. Il a ajouté que la Banque mondiale continuera à soutenir l'Indonésie dans ses divers efforts pour parvenir à un développement résilient, durable et inclusif afin d'apporter des avantages à la nation indonésienne aujourd'hui et à l'avenir. Le développement de cette centrale hydroélectrique vise à augmenter la capacité de production d'électricité en période de pointe, tout en soutenant la transition énergétique et en atteignant des objectifs de réduction des émissions de carbone du pays. Le ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales, Arifin Tasrif, a déclaré que le gouvernement indonésien s'est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce, entre autres, au développement des énergies renouvelables, aux efforts de conservation de l'énergie et à l'utilisation de technologies énergétiques propres. En outre, il a déclaré que la réduction des émissions du secteur d'énergie est encouragée par diverses actions telles que la fourniture d'électricité par des générateurs d'énergie nouvelle et renouvelable, ainsi que la mise en œuvre de l'efficacité énergétique. Plus de 80% de l'électricité produite pour le réseau électrique Jawa-Bali qui fournit de l'électricité à 70% de la population indonésienne provient de combustibles fossiles. Selon Arifin Tasrif, un effort important pour soutenir le programme de décarbonisation de l'Indonésie est la construction d'installations de stockage d'énergie qui permettent l'intégration de sources d'énergie renouvelable dans le réseau électrique. La centrale hydroélectrique à stockage pompé joue un rôle très important dans cette approche. Ainsi, Arifin pense que l'installation a le potentiel d'ajouter une capacité de production d'électricité significative pour répondre à la demande au pic de charge. De plus, cette installation offre une grande capacité de stockage pour permettre la réception d'énergie renouvelable en quantité encore plus importante et allégera la charge sur le réseau de la transmission. En conséquence, fournir une électricité plus respectueuse de l'environnement et plus fiable profitera aux consommateurs de Java et Bali. Chers auditeurs, c'était Mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Carilah kawan bahagia di dalam diri.
lembaran hidup.
Suka duka datang pergi, irama hidup. Carilah kawan bahagia di dalam diri.
C'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Bonsoir, chers auditeurs. Nous nous retrouvons dans notre programme favori, le magazine culturel. Cette fois-ci, nous allons vous inviter à visiter le port de Labuan Bajo. Le port de Labuan Bajo est très stratégique car c'est l'entrée de la province de l'Est de Nusa Tenggara. De plus, c'est aussi l'entrée du parc national de l'île de Komodo. Presque chaque touriste qui viendra à Labuan Bajo par voie maritime, terrestre ou aérienne se rendra au port de Labuan Bajo pour visiter le parc national de l'île de Komodo. Le port de Labuan Bajo ne sera converti qu'en port de passagers et de tourisme. Car Labuan Bajo est célèbre pour son magnifique tourisme maritime, de sorte que de nombreux touristes viennent à Labuan Bajo pour des vacances et profiter de ses attractions naturelles. Le nom de Labuan Bajo est tiré des noms Labuan et Bajo. Le mot Labuan est tiré du mot pelabuhan ou port, car la région de Labuan Bajo est un endroit où les grands et petits navires accostent lorsqu'ils entrent dans la province de Nusa Tenggara Est par la mer. Au fil du temps, il est donc communément appelé Labuan. Tandis que Bajo est tiré du nom de la tribu Bajo, connu sous le nom de la tribu côtière qui vit généralement sur des bateaux ou des maisons sur pilotis construits au-dessous de la mer, puis survit en pêchant des poissons dans des vaisseaux. On peut dire que la tribu originale de Labuan Bajo est la tribu Bajo qui vit et s'installe à Labuan Bajo depuis des décennies. L'emplacement du port de Labuan Bajo est en effet très stratégique. En plus d'être sur la route nationale qui est l'entrée de la province de l'Est de Nusa Tenggara, il fait environ 30,5 km ou 10 minutes en véhicule à 4 roues, assez proche de l'aéroport international de Komodo. Lorsque votre navire accoste au port de Labuan Bajo, vous n'avez pas à vous soucier de l'hébergement et des autres installations de soutien. Des hébergements tels que des auberges, des hôtels et des villas à des prix commençant à 100 000 rupiah par nuit sont disponibles autour du port de Labuan Bajo. De plus, les transports en commun sont faciles à trouver comme les mototaxis ou le petit bus. Vous pouvez également rechercher des locations de moto, de voiture ou de minibus disponibles non loin du port de Labuan Bajo. En ce qui concerne la nourriture et les boissons, il y en a également beaucoup disponibles au port de Labuan Bajo et autour du port avec des prix commençant à 10 000 rupiah par menu de nourriture et 5 000 rupiah par menu de boisson. Bien que le village de Labuan Bajo ne soit pas trop grand, les installations ici répondent vraiment aux besoins des touristes, de sorte que l'inspiration pour les affaires touristiques ici est assez accrue. Par conséquent, il existe de nombreuses installations disponibles autour du port de Labuan Bajo que vous pouvez utiliser lorsque vous vous rendez à Labuan Bajo par la mer. Labuan Bajo n'est pas seulement riche en destinations touristiques, mais aussi riche en culture et en langue que l'on trouve rarement dans d'autres régions d'Indonésie. Qu'attendez-vous? Faites vos plans à partir de maintenant pour vous rendre à Labuan Bajo via le port de Labuan Bajo. Chers auditeurs, c'était notre programme Le Magazine Culturel pour ce soir, intitulé Le Port de Labuan Bajo. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À demain!
International de Voice of Indonesia 2021. Voice of Indonesia organise à nouveau un quiz. C'est Quiz International de Voice of Indonesia 2021. Gagnez des prix attractifs et des prix de consolation de Voice of Indonesia. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web www.voinews.id. Bonne chance!
Kau tahu, kau.
Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger des RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère indonésien, de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Bisa diulang. Bisa diulang, en français. Pouvez-vous la répéter? Bonne écoute. Chers auditeurs, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Bisa diulang? Bisa diulang? En français, pouvez-vous la répéter? La situation est Kevin a appelé le restaurant. Il a commandé du poulet frit pour la livraison. Le service client a demandé l'adresse et a demandé à Kevin de la répéter amicalement. Bonne écoute.
Mau diantar kemana, Pak?
Perumahan Loka Cipta nomor 1.
Maaf, bisa diulang?
Perumahan Loka Cipta nomor 1.
Chers auditeurs, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Bisa diulang? Bisa diulang? En français, pouvez-vous la répéter? Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois et puis vous pouvez me répéter. Mau, mau, vouloir. Diantar, diantar, pour livraison. Kemana, kemana, où. Bisa, bisa, pouvoir. Diulang, diulang, répéter. Mau diantar kemana, Pak? Mau diantar kemana, Pak? En français, où voulez-vous que nourriture soit livrée, monsieur? Perumahan Loka Cipta nomor 1. Perumahan Loka Cipta nomor 1. Residence Loka Cipta numéro 1. Maaf, bisa diulang? Maaf, bisa diulang? Pardon, pouvez-vous la répéter? Chers auditeurs, dans la conversation, vous avez entendu la demande. Maaf, bisa diulang? Maaf, bisa diulang? En français? Pardon, pouvez-vous la répéter? Vous pouvez utiliser cette phrase lorsque vous demandez à quelqu'un de répéter quelque chose. Le mot-clé de l'expression est diulang. Diulang, en français, répéter. Ou ulang. Ulang, répéter. Pour être poli, vous pouvez utiliser les mots bisa, boleh, tolong. Bisa, boleh, tolong. En français, pouvez-vous. Ou mohon, mohon. En français, s'il vous plaît. Avant le mot diulang, diulang, répétez. Ou bien ulang, ulang, répétez. Et maintenant, écoutons un autre exemple de demande à quelqu'un d'autre de répéter quelque chose. Kevin, saya Kevin Smith. Saya Kevin Smith. Je suis Kevin Smith. Femme. Maaf, boleh diulang? Maaf, boleh diulang? En français, pardon, pouvez-vous répéter? Kevin. Kevin Smith. Kevin Smith. En français, Kevin Smith. Kevin. Saya Kevin Smith. Saya Kevin Smith. En français, je suis Kevin Smith. Femme. Maaf, tolong diulang. Maaf, tolong diulang. En français, désolé. Répétez, s'il vous plaît. Kevin. Kevin Smith. Kevin Smith. En français, Kevin Smith. Changez tard avant de terminer à apprendre l'indonésien. Pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Mau diantar kemana, Pak?
Perumahan Loka Cipta nomor 1.
Maaf, bisa diulang?
Perumahan Loka Cipta nomor 1.
Bonjour, Gitar. Voilà l'édition d'Apprendre l'indonésien pour ce soir. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir. Chers amis, c'était la 4e chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3-5 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Et je vais vous présenter une chanson de Sumatra occidental intitulée Malam Bainai, chantée par Eli Kasim. Chers auditeurs, la chanson Malam Bainai a été composée par Karim Nour et popularisée par Eli Kasim. La chanson Malam Bainai décrit l'atmosphère avant le jour du mariage de la maison de la mariée. La future mariée exécute des bainai ou colle des fleurs marinées rouges écrasées sur les ongles. La cuisine disponible, à savoir goat curry, a un goût très délicieux. Beaucoup de jeunes ont regardé lors de la Malam Bainai. La future mariée a versé des larmes, car ce jour-là était son dernier jour avec sa famille. Bonjour, Gitar, voici Eli Kasim, va chanter une chanson intitulée Malam Bainai. Bonne écoute. Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiceindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.